en votre compagnie avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous et bien sûr ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission découverte. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous irons bien sûr en Israël où l'acteur Idan Hamedi a décliné la proposition d'allumer une torche le jour de Yom HaTzmaout. Ce dernier, qui était un acteur du film Fauda sur Netflix, grièvement blessé dans les combats dans la bande de Gaza, se remet lentement de ses blessures. L'Américain Steven Spielberg dénonce la machinerie de l'extrémisme sur le campus et déplore les morts de la guerre entre Israël et le Hamas, et cela lors d'une cérémonie en l'honneur des survivants de la Shoah. L'antisémitisme n'a pas sa place dans la société. Qui a déclaré cela? Eh bien, c'est le prince William. La famille royale britannique a rencontré des survivants de la Shoah dans une synagogue à Londres. Ce mercredi 20 mars, l'Université d'Orléans, France, devient la première université française à signer une convention avec le mémorial de la Shoah. De nombreuses actions et formations doivent être mises en place dès la prochaine rentrée universitaire. Je vous parlerai également de Theresienstadt, le ghetto maquillé en paradis par les nazis. Au printemps 1944, le ghetto-camp situé à Terezín en République tchèque a été transformé en cadre idyllique par la propagande nazie, une mise en scène visant à dissimuler les ambitions génocidaires du Troisième Reich. Et je vous parlerai de deux ouvrages. Tout d'abord, « La solitude d'Israël », indispensable livre de combat de Bernard-Henri Lévy, une guerre dont Israël n'a pas voulu. Bernard-Henri Lévy qui signe ici un excellent essai où il démonte un à un les arguments anti-sionistes. Autre livre, « Comment ça ne va pas ?», conversation après le 7 octobre. C'est donc Delphine Horwiller, la rabbine, qui a écrit ce livre. Voilà, on se retrouve dans quelques instants et je vous propose comme d'habitude, tant qu'il y aura la guerre en Israël, cette chanson d'entrée d'émission, donc « Am Israël Chai ».
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו נחלתנו לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות אלפיים עוד נצא לשיר ברחובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי
הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול
L'acteur Idan Hamedi, grièvement blessé dans les combats dans la bande de Gaza, se remet lentement de ses blessures et à l'approche de la cérémonie des flambeaux de Yom HaAtzmaout, il s'est donc vu proposer d'allumer une de ces torches qui récompense cette année les personnes qui se sont distinguées par leur bravoure. Idan Hamedi a annoncé avoir décliné cette proposition. Il a expliqué son refus sur son compte Instagram. « Un jour, je parlerai de mon rôle dans cette guerre. Je suis fier des choix que j'ai faits. Dès le premier instant, il était plus clair que jamais pour moi que cette fois, je me battais pour l'avenir de mes enfants. Il y a Ellie et Jonathan, et cela m'a renforcé et m'a donc aidé à renforcer les autres, même dans les endroits les plus sombres. Ces derniers jours, j'ai été contacté par les médias au sujet du choix de m'accorder l'honneur d'allumer une torche lors de la cérémonie de Yom HaAtzmaout de cette année qui aura lieu sur le thème de la bravoure israélienne. Il n'y a pas de plus grand honneur que celui-ci, mais malheureusement, je ne pourrai pas l'accepter cette année. De nombreux héros ont émergé de ce samedi noir. Certains d'entre eux étaient mes soldats dans le passé ou dans la guerre actuelle. Cette année, je resterai chez moi et je m'unirai à leur mémoire comme beaucoup d'autres membres du peuple d'Israël. Mais je mentionnerai aussi le miracle appelé l'État des Juifs. Récemment, j'ai compris ce miracle en profondeur. J'espère qu'à l'avenir, j'aurai peut-être le mérite d'allumer une torche grâce aux mots que j'écris et non à cause de l'héroïsme de la guerre. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont recommandé pour cet honneur, le ministre de la Défense, la ministre Regev et les membres du comité. Que la mémoire d'Alexei, Akiva, Gavri, Eliran et de tous les combattants qui sont tombés soit bénie, puissions-nous mériter d'être dignes de leur lumière. » Fin de citation. Disparition de Martin Greenfield, le couturier des présidents américains. Ce dernier, rescapé de la Shoah, devenu célèbre tailleur des présidents américains et des grandes personnalités, s'est donc éteint à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Long Island à New York. Sa mort a été annoncée par son fils Todd Greenfield au New York Times, mettant fin à une vie marquée par des épreuves et des réussites tout à fait remarquables. Né Maximilian Grünfeld en 1928 dans une famille juive en Tchécoslovaquie, Martin Grünfeld a connu l'horreur des camps de concentration nazis dès son adolescence. Utilisé par les nazis dans la laverie des vêtements du camp, il a survécu grâce à sa compétence en couture acquise lorsqu'un autre prisonnier lui a appris à coudre après qu'il ait déchiré par accident le col d'une chemise d'un gardien. Cette chemise qu'il a réparée et portée lui a valu un statut de privilégié parmi les détenus, lui permettant d'accéder à plus de nourriture et de circuler relativement librement dans le camp. Après la guerre, il s'est réfugié aux États-Unis en 1947, où il a reconstruit sa vie à partir de rien. Travaillant d'abord dans la confection à Brooklyn, il a finalement repris une entreprise de costumes qu'il a transformée en l'atelier de renom Greenfield Clothers. Cet atelier, le dernier du genre à New York, est devenu célèbre pour ses costumes sur mesure confectionnés à la main par une équipe de 50 artisans. Au fil des années, Martin Greenfield a habillé une pléthore de personnalités, dont 6 présidents américains, des stars de cinéma, de musique et de sport. Son savoir-faire artisanal et son dévouement à son métier ont fait de lui une figure emblématique de la mode et de l'histoire américaine. La disparition de Martin Greenfield laisse derrière lui un héritage exceptionnel, rappelant à tous sa capacité à surmonter l'adversité et à la transformer en succès remarquable. La fête de Pourim vient de se terminer. Alors, le saviez-vous ? Question. Esther et Mordechai, nos héros de Pourim, tirent en réalité leur nom de la mythologie mésopotamienne. Mais oui, ces derniers seraient en effet des dérivés des noms Ishtar et Marduk, deux divinités vénérées par les Akkadiens, les Assyriens et les Babyloniens. Alors, pourquoi cet emprunt ? Comme toujours dans le judaïsme, il y a plusieurs explications possibles. La plus probable restant la simple proximité culturelle et l'envie de calquer des éléments culturels perses. À noter parmi les parallèles troublants que l'on pourrait tracer que la fameuse Ishtar était censée être la déesse de l'amour et du sexe, et il n'est pas nécessaire de rappeler ici la beauté d'Esther, mais aussi une déesse reine, souveraine, un peu comme Héra dans la mythologie grecque. Les noms, les lieux et les décors de nos récits changent, mais leurs thèmes, leurs préoccupations ou leurs contours finissent bien souvent par se croiser et même par se confondre.
Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.
C'était donc Alpha Blondy qui chantait Jérusalem. Le prince William, héritier du trône britannique, a déclaré jeudi dernier que l'antisémitisme n'avait pas sa place dans la société et que lui et son épouse Catherine s'inquiétaient de sa montée au Royaume-Uni. William, 41 ans, a pris la parole lors d'une visite à la synagogue Western Marble Arch dans le centre de Londres. Le futur roi a déclaré aux participants, parmi lesquels de jeunes ambassadeurs du Holocaust Educational Trust et des survivants de la Shoah, « Les préjugés n'ont pas leur place dans la société. Je l'ai déjà dit et je le répète, je veux que vous sachiez tous que vous pouvez en parler et parler de vos expériences. » Catherine et moi sommes extrêmement préoccupés par la montée de l'antisémitisme dont vous avez parlé ce matin et je suis vraiment désolée si l'un d'entre vous a dû vivre cela. Cela n'a pas sa place, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous rassurer sur le fait que les gens s'en soucient et écoutent et que nous ne pouvons pas laisser cela passer. Dans un moment émouvant, le prince de Galles, vêtu d'une kippa, a posé la main sur celle de René Salt, 94 ans, survivant de la Shoah, alors qu'il l'écoutait attentivement. Il a également rencontré Manfred Goldberg, qu'il avait déjà rencontré d'ailleurs lors de sa visite avec la princesse de Galles dans l'ancien camp de concentration de Stutthof, près de Danzig en Pologne, c'était en 2017. La visite de William intervient à un moment où l'antisémitisme atteint des niveaux alarmants en Grande-Bretagne et dans le monde d'ailleurs. L'organisme consultatif juif, le Community Security Trust, le CST, a déclaré que la Grande-Bretagne avait enregistré des milliers d'incidents antisémites suite au déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas à la suite des atrocités du 7 octobre. Le CST a déclaré que 2023 était la pire année pour l'antisémitisme au Royaume-Uni depuis qu'il a commencé à l'enregistrer en 1984. La semaine dernière, le prince a publié une déclaration appelant à une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et à la libération immédiate des otages qui y sont détenus. Peu après les attentats du 7 octobre, le prince et la princesse de Galles ont exprimé leur horreur et leur inquiétude, se disant profondément affligés par les événements dévastateurs qui se sont déroulés ces derniers jours. Les horreurs infligées par l'attaque terroriste du Hamas contre Israël sont épouvantables. Nous les condamnons totalement. Fin de citation. Direction la France à présent. Ce mercredi 20 mars, l'Université d'Orléans devient la première université française à signer une convention avec le Mémorial de la Shoah. Cela fait près d'une dizaine d'années que l'Université d'Orléans s'est dotée d'une mission pour traiter les questions liées à l'égalité avec à la clé environ 70 actions chaque année. Sensibiliser, former en s'appuyant sur des données scientifiques, c'est agir contre le racisme et l'antisémitisme. Une étape supplémentaire a d'ailleurs été franchie ce mercredi 20 mars avec la signature d'une convention de partenariat liant cette même université au Mémorial de la Shoah. C'est une première dans le monde universitaire. La grande nouveauté, c'est que nous pouvons à présent offrir les ressources du Mémorial à l'ensemble du monde universitaire, s'est réjoui M. Jacques Fretsch, son directeur. Une manière d'élargir le public en ajoutant aux jeunes des premiers et deuxièmes degrés ceux qui font des études supérieures. C'est d'autant plus intéressant, poursuit Jacques Fretsch, que le monde de l'université est traversé par des débats, des sauts d'humeur ou même parfois des blocages qui reposent la plupart du temps sur la méconnaissance des enjeux ou tout simplement de l'histoire. Même satisfaction à l'Université d'Orléans. Pour M. Didier Chavrier, son vice-président chargé de l'égalité et à l'origine de cette convention, ce partenariat répond à une nécessité face à la multiplication des actes de racisme et d'antisémitisme. L'accord se déclinera en une multitude d'actions de sensibilisation et pas seulement à destination des étudiants. L'accent sera également porté sur la formation initiale et continue des enseignants. Conférences, ateliers, visites ou encore expos. C'est en somme toute la communauté universitaire qui bénéficiera ainsi du rayonnement du mémorial. Une relation privilégiée sera entretenue par ailleurs avec les ressources locales puisque c'est dans la région Centre-Val-de-Loire qu'est installé le CERCIL, Muvée Mémorial des Enfants du Veldiv, un lieu de mémoire dédié aux milliers d'enfants qui furent détenus dans les camps d'internement de Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'Université d'Orléans, toutes ces actions seront pilotées par la mission Égalité et viendront nourrir son agenda dès la prochaine rentrée universitaire. Avec la signature de cette convention, la première du genre, l'Université d'Orléans apporte aussi sa contribution à la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Cette dernière est célébrée chaque année le 21 mars.
שוב בדרך לאיזה כפר מי משנינו יתחיל דיבור אני זורק לך משפט מוכר קחי סיגריה תתני גפור אני מרגיש את הנשימה שלך ולוקח תלה ריאות ואומר לך הים ירעד והלב ישרוד שוב בדרך לאן שהוא את שואלת יהיה זמר אני אומר לך הכל תלוי את קוראת לי עוד מיתר את לוחשת מצחי שלי ופותחת חלום לעיר ואומרת תקשיב צלילי מחפשים שם שיר את היית בחורה שלי את היית הימים מהם את היית החצי שני ועכשיו החיה שלם החיים הם חידה גדולה אני זוכר איך אמרת לי לא הורגים את הבחורה שעוד מיזה שוב בדרך על הכבישים מעשנים מעשנים תמיד
את מספרת
את מספרת על אנשים
את מנבט
מנבט לי את העתיד עוד יגיעו לירחים עוד יזיעו עד אלוהים עוד יריעו לאחרות ולאחרים את היית בחורה שלי את היית הימים ההם את היית החצי שלי ועכשיו החיה שלם החיים הבחידה גדולה אני זוכר איך אמרת לי אז לא הורגים את הבחורה שעוד מיזה בחורה שלי את הבאת לי המזלות כשאמרו פמיניסטיתי איך צחקתי מזה מאוד כשלקחת מיקרופון מיין וכששעת שם בעוצמתך נעמדתי שם בצד נתפעל ממך נעמדתי שם בצד נתפעל ממך נעמדתי שם בצד, מתפעל ממך בדרך לאיזה כפר מי משנינו יתחיל דיבור
שלמה ארצי avec הבחורה שלי Avant d'en venir au dernier et indispensable livre de combat de Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël, je voudrais vous parler d'un concert hommage rendu à l'abbé Joseph André, juste parmi les nations, décédé il y a un peu plus de 50 ans. Pendant l'occupation allemande, l'abbé André a caché des centaines d'enfants juifs à son domicile à Namur avant de leur trouver un hébergement plus sûr à la campagne. Après la guerre, l'amitié entre juifs et chrétiens est toujours restée une de ses préoccupations et ce concert est une belle occasion de célébrer cette amitié. Le chœur royal de Namur et le concert bourgeois présenteront donc l'intégralité du Messie de Handel, dont les textes, le saviez-vous, nous viennent essentiellement du judaïsme. Ce concert aura donc lieu le lundi 1er avril à 17h30 au Grand Manège, rue Roger, 82 à Namur. L'indispensable, donc, ce livre « Solitude d'Israël, une guerre dont Israël n'a pas voulu », Bernard-Henri Lévy qui signe là un excellent essai où il démonte un à un les arguments anti-sionistes. Et quel titre remarquable, chers auditeurs, « Solitude d'Israël » paru chez Grasset, qui nous change bien de la production du Seuil très anti-sioniste des Jean-Pierre Filiou et des Shlomo Sant. BHL ne pouvait trouver mieux. Rarement, Israël s'est trouvé plus isolé sur la scène internationale que depuis le 7 octobre. Alors que le pays a subi son plus grand massacre, un pogrom, plus de 1200 morts, des centaines d'otages, assassinats, viols, tortures, des civils, des enfants, il faut le répéter comme le fait BHL dans son livre, et il a raison de le faire, ce pogrom est aujourd'hui oublié, gommé, sorti du champ de l'histoire. BHL parle même de négationnisme. Solitude donc, solitude des Israéliens, un peuple à terre, un peuple en dépression, un peuple traversé par une tristesse inouïe, une tristesse qui réveille les démons de la Shoah, inévitablement. Les monstres du Hamas ont frappé fort, très fort. Jamais un groupe terroriste n'avait frappé si fort. Ils ont voulu tuer un maximum de Juifs comme ils veulent un maximum de morts de ce pauvre peuple palestinien pour que la haine à l'endroit d'Israël soit irrémédiable. Et Paris réussit. Jamais un groupe terroriste n'aura autant mérité l'appellation de nazi-islamiste. BHL évoque d'ailleurs la très large participation des pays arabes au nazisme. Certes, rappelle-t-il, ce n'est pas la première fois qu'Israël se sent seul. À chaque guerre contre Israël, c'est la même rengaine. Israël fautif, comme les Juifs depuis toute éternité. C'est si simple. Mais cette fois-ci, l'événement est d'une telle ampleur que sa solitude semble immense. L'Allemagne est là, heureusement. Les États-Unis sont là, bien sûr, fidèles au poste de la plus grande démocratie du monde. C'est à peu près tout. Les détracteurs, eux, sont légion. Chez nous en France, chez nous en Belgique aussi, Mélenchon, Le Monde et combien d'autres récemment, une idole féministe de la gauche, Judith Butler, jugeant le pogrom du Hamas comme un acte de résistance. Puis l'écrivaine Annie Ernaux, tiens donc. Autre idole féministe de la gauche qui soutient Butler. La gauche, tout un poème. Et il y a l'ONU qui donne le « la » mondial. BHL en parle avec véhémence. Il rappelle le discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'attaque du Hamas ne s'est pas produite dans le vide. Elle doit être appréciée en fonction du contexte de l'occupation par Israël. Fin de citation. Ce fameux contexte repris ad nauseam comme un mantra dans le monde entier, jusqu'à l'université de Harvard. Comme combattant des droits de l'homme, il sait depuis longtemps que l'institution, au mieux, ne sert à rien, au pire, est dévoyée. En Bosnie, l'ONU a pris des années avant de désigner les agresseurs et d'arrêter, 4 ans plus tard, le siège de Sarajevo. Au Rwanda, l'ONU attend la fin des massacres pour conclure au génocide, et pour l'Ukraine, l'ONU est une fois impuissante. Cette solitude d'Israël, le livre de Bernard-Henri Lévy, tente de la combler. Il réconforte avec succès, avec panache et avec connaissance de son sujet. Parfois à travers la mystique juive, parfois à travers les philosophes Scholem, Levinas et Rosenzweig, parfois à travers des historiens spécialistes d'Israël et parfois à travers ses propres expériences nombreuses de reporters de guerre. Les uns après les autres, ils démontrent les fallacieux arguments des adversaires d'Israël. Par exemple, le fameux cessez-le-feu réclamé à corps et à cri. BHL rappelle, lui, le grand connaisseur des guerres, l'importance capitale d'éradiquer les mouvements islamistes. Il rappelle combien il fut essentiel de tuer Ben Laden en 2011, mort qui marqua un coup d'arrêt très net d'Al-Qaïda, et par là même détruisant le mythe dans le monde arabe d'invisibilité du groupe terroriste. Aussi rappelle-t-il qu'avoir détruit la structure de commandement de Daesh à Mossoul et d'avoir tué leur chef Abu Bakr al-Baghdadi leur avait fait perdre beaucoup de leur popularité et de leur capacité de mobilisation et de leur force de frappe. Bien sûr, conclut BHL, il reste des terroristes qui se forment et se reforment, mais pour un temps plus ou moins long, le danger est repoussé. Annihilé. Tsahal, l'armée israélienne, s'inscrit dans cette perspective, éradiquer le Hamas pour la survie de leur pays face à ces barbares. Israël n'a pas le choix, dit-il. Et BHL d'ajouter un argument que nous entendons peu, qu'il n'y a pas de raison qu'après ces milliers de morts palestiniens, ces enfants tués à cause du Hamas qui sacrifie sa population, pas moins que Daesh, pas moins qu'Al-Qaïda, que le peuple palestinien ne se réveille en disant « plus jamais ça », plus jamais de ces dirigeants islamo-nazis du Hamas pour éviter un deuxième massacre. Il y a des pensées déchirantes dans ce livre de combat, comme celle sombre sur ce que représente cet événement du 7 octobre. Écoutons-le. Pas un lieu en ce monde où les Juifs soient saufs sur cette planète, qui soit un abri pour les Juifs, voilà ce qu'énonce cet événement. Jamais, nulle part, il ne sera dit que les Juifs peuvent habiter paisiblement le monde, et ce, jusqu'à la fin des temps. Telle est la vérité qui semble sauter aux yeux. Comme il a raison, BHL, de le souligner, le journal Le Point, un soutien extraordinaire d'Israël, avait titré le 7 octobre « Premier pogrom du XXIe siècle, toujours et encore ». Une autre pensée déchirante de BHL passe par le personnage d'Amalek, le plus vieil ennemi des Juifs, nous dit la Bible. Il savait qu'il allait perdre la guerre contre les Juifs, mais il savait aussi qu'il allait pour longtemps ternir leur éclat. BHL, nous en sommes très exactement à ce point où le Vierge, le Bel, le vivace Israël voit se refroidir et obscurcir sa splendeur. Nous nous retrouvons tous jetés dans une situation qui fut celle, hélas, de nos aïeux et à laquelle nous pensions avoir échappé. Et l'âme juive dans tout cela, brisée, hélas, une grande victoire du Hamas, impalpable mais bien réelle, in fine, ce livre coup de poing s'efforce de la plus belle des manières, par l'intelligence de l'argumentation, de démontrer que cette guerre est une guerre juste, une guerre comme n'a de cesse de le répéter Benjamin Netanyahou, non contre le peuple palestinien, mais contre le Hamas. Une guerre nécessaire, d'une urgence suprême, une guerre de riposte vitale à Israël pour que ce pogrom soit le dernier, une guerre dont le but est d'éliminer la guerre, une guerre pour qu'il n'y en ait plus, une der des der, comme en Allemagne en 1945, et il est permis d'y croire, et j'ajouterai « Am Israël Chai ».
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ? » Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique à tous individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empires de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide. Mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur Terre. Et sur Terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. » Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
Plaidoyer pour ma terre, toujours percutant d'actualité, qui a été écrit, je pense, aux environs des années 1974. Comment ça va pas ? Cette blague juive, connue sous mille formes, Delphine Horviller l'a choisie pour titre de son dernier livre. Profondément choquée, meurtrie et déchirée par ce qui s'est produit en Israël le 7 octobre dernier et par les tragédies qui en découlent, la célèbre rabbine confie avoir découvert les insomnies, comme tant de juifs d'ailleurs de par le monde. Pour supporter cette détresse et cette absence de sommeil, elle s'est donc mise à écrire, écrire et encore écrire. Le texte, indique-t-elle, est composé de 10 conversations réelles ou imaginaires, conversation avec ma douleur, conversation avec mes grands-parents, conversation avec la paranoïa juive et même conversation avec Claude François, conversation avec les antiracistes, conversation avec Rose, conversation avec mes enfants, conversation avec ceux qui me font du bien, conversation avec Israël, conversation avec le Messie. Et le résultat nous est livré sous la forme d'un petit livre dont la promesse est, si pas de nous consoler, au moins de nous faire sentir moins seuls et de nous aider à ne perdre ni la tête, ni notre humanité. Et c'est paru chez Grasset, donc, comment ça va pas ? Conversation, après le 7 octobre. Direction Tel Aviv à présent. Connaissez-vous Funny Monday ? C'est le nom d'un club anglophone de stand-up qui tient ses quartiers dans un bar de Tel Aviv, le bar Giora. Conçu à destination des touristes, des nouveaux citoyens pas encore à l'aise avec l'hébreu ou simplement des Israéliens se débrouillant bien avec la langue de Shakespeare, le Funny Monday est conduit par 2 humoristes confirmés, à savoir Yochai Sponder et Shahar Hasson. Ils accueillent une série de jeunes et moins jeunes humoristes prêts, eux aussi, à se livrer au défi d'écrire et de jouer des textes en anglais, bien que ce ne soit pas leur langue maternelle. Au Funny Monday, on trouve des jeux de mots, mais aussi de l'humour noir. Et en cette période si sombre pour le pays, il semblerait que les Israéliens en aient bien besoin pour parvenir, comme si souvent dans l'histoire juive, à tenir bon et exorciser les douleurs et les deuils. car lorsque les artistes abordent de façon frontale et oui humoristique les événements du 7 octobre pour évoquer le pogrom et le kidnapping des otages, des rires très sonores se font entendre dans le public, comme si les émotions débordantes de détresse, de chagrin et de colère explosaient dans ce son si vivant. Hébraïsant ou non, si vos pas vous amènent à Tel Aviv ou que vous connaissez quelqu'un s'y trouvant, quelqu'un qui, à l'image de tout le pays et de toute la diaspora, aurait bien besoin de rire un peu pour apaiser son cœur blessé, Funny Monday est le lieu tout trouvé. Vous pourrez également trouver des extraits vidéo sur la chaîne YouTube du club, et le bar Giora se trouve dans une rue très connue, Ibn Gvirol, numéro 30.
Lom wir singen Kinderlach, a Seimerl zusammen. Ein Wiegendl, a Freiliches, mit Wertalach zu skrammen. Die Mame kocht a Lokschlsup mit Kasche in mit Knädlach. Kinder jontef Pirem, weil wir spielen sich in Dreidlach. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Bom. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Bom. Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 bom. Schön wie die Levone, lichtig wie die Sterne, von Himmel am Atone, bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gefunden, wenn ich hab dir gewinnen. Du scheiß wie tausend Sinnen, hast du mein Herz verglickt. Deine Zähnderlach weiß wie Perlach, mit deine schönen Augen, deine Händerlach, deine Herrlach, hast mich zugezeugen, schön wie die Levone, lichtig wie die Stern, von Himmel am Atone, hast du mir sie geschickt. Bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen und nicht aufhören, wo's kann denken, weinen und tränen. Tumbalalai, 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 spiel balalai, spiel balalai, spiel balalai, freilich soll sein. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du Hitz, bei mir bist du noch teurer von Geld. Viel schöne Mädelach, ihr wollt schön nehmen mich, noch finden sie alle euch geklebt dich. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Es ist zu mir gekommen, a Cousine, schön wie Gold, sie gewinnt die Grine. Bäckerlach wie Reute Pomeranzen, Fieserlach, wo's beten sich zum Tanzen. Bäckerlach wie Reute Pomeranzen, Fieserlach, was beten sich zum Tanzen. Heint das sich begegnen, mein Cousine, und ich frag sie, wo machst du Grine? Entfört sie mir mit der Creme Mine, als am Aslof Kolumbus es Medine. Entfört sie mir mit der Creme Mine, als am Aslof Kolumbus es Medine. Jo, jo, Jossel, 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 du schrei es geht hier, a Joes von dir. O, jo, jo, Jossel, 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 sie holen jede Nacht nur von dir. O, jo, jo, Jossel, 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 dein Malke ist nur und wart auf dir. Sie holen jede Nacht und von dir, nur sie tracht, sie bängt und krapiert nur von dir.
Sie holen Kleidernacht und von dir nur sie tracht. Sie bängt und krepiert nur von dir. Ist in der Rebinu gegangen unterwegs. Mit dem Muleb tun sie fjuchen, ungissener Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmare, heraufgießen Wasser. Zinnen alle sie dem Trinken arroz. Der Rebbe ist arroz an Nasser. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 bom.
Le cinéaste américain Steven Spielberg avertit que la machinerie de l'extrémisme est utilisée sur les campus universitaires et a déploré les personnes tuées en Israël et à Gaza, tout en étant honoré pour son travail de mémoire sur la Shoah à l'Université de Californie du Sud, l'USC. Le célèbre cinéaste juif a pris la parole lundi après-midi lors d'une cérémonie au cours de laquelle l'USC a décerné son prestigieux médaillon universitaire aux 56 000 survivants de la Shoah qui ont témoigné auprès de la fondation USC Shoah, fondée par Spielberg il y a 30 ans. Une trentaine de survivants étaient présents à la cérémonie. Le texte du prix indique également que l'école est immensément reconnaissante envers Spielberg et son épouse Kate Capshaw. Dans son discours, Spielberg a déploré les sondages montrant des taux élevés d'antisémitisme sur les campus universitaires. « Nous voyons chaque jour comment la machinerie de l'extrémisme est utilisée sur les campus », a déclaré Spielberg, et quelques instants plus tard, il a déclaré « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter et je suis de plus en plus inquiet à l'idée que nous puissions être condamnés à répéter l'histoire, à devoir une fois de plus nous battre pour le droit même d'être juif », en ajoutant « la création de l'autre et la déshumanisation de tout groupe en fonction de ses différences sont le fondement du fascisme ». Les organisations juives de surveillance et les forces de l'ordre ont documenté une montée de l'antisémitisme depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier, lorsque le groupe terroriste a envahi Israël. Récemment, parallèlement à son travail de mémoire sur la Shoah, la Fondation Shoah a commencé à recueillir les témoignages des survivants du 7 octobre. Spielberg a bien sûr qualifié l'attaque d'horrible. Face à la brutalité et à la persécution, nous avons toujours été un peuple résilient et compatissant qui comprend tous le pouvoir de l'empathie, a déclaré Spielberg. Nous pouvons faire rage contre les actes odieux commis par les terroristes du 7 octobre et également dénoncer le meurtre de femmes et d'enfants innocents à Gaza. Cela fait de nous une force unique pour le bien dans le monde et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Fin de citation. Pour rappel, Steven Spielberg a créé la Fondation Shoah après avoir réalisé son film sur la Shoah, oscarisé en 1993, la fameuse liste de Schindler. Certaines parties de ses remarques de lundi dernier recoupent un discours controversé prononcé par Jonathan Glazer, scénariste et réalisateur d'un autre film acclamé se déroulant à Auschwitz, la zone d'intérêt de l'année dernière. En acceptant l'Oscar du meilleur film étranger au début du mois, Jonathan Glazer a également dénoncé la déshumanisation et déploré les victimes du 7 octobre en Israël ou l'attaque en cours sur Gaza. Mais les critiques ont surtout pris ombrage de Glazer en disant juste avant « En ce moment, nous sommes ici en tant qu'hommes qui réfutent leur judéité et la Shoah détournée par une occupation qui a conduit à un conflit pour tant d'innocents ». Fin de citation. Un certain nombre de personnalités et d'organisations juives et pro-israéliennes ont condamné le discours, tandis que d'autres ont défendu les propos de Glazer. Spielberg a d'ailleurs déclaré que le travail de sa fondation avait gagné en importance après le 7 octobre. C'est crucial pour mettre un terme à la violence politique causée par la désinformation, les théories du complot et l'ignorance, a-t-il déclaré à propos des efforts de la Fondation Shoah. C'est crucial car arrêter la montée de l'antisémitisme et de la haine de toutes sortes est essentiel à la santé de notre République démocratique et à l'avenir de la démocratie dans le monde civilisé. Spielberg a encore déclaré que lors d'un récent rassemblement de survivants, une femme a partagé ce que je sais que beaucoup d'entre nous souhaitent, que ceux qui sont actuellement retenus en otage à Gaza soient en sécurité et aient l'espoir de rentrer chez eux. Madame Selina Binia, survivante de la Shoah, que Spielberg a présentée lors de la cérémonie, a été sauvée par Oskar Schindler, dont l'histoire est racontée dans la liste de Schindler. Cette dernière a déclaré qu'elle n'avait pas parlé de son expérience pendant la Shoah, y compris avec ses propres enfants, jusqu'à ce que le film l'incite à s'exprimer. « Oskar Schindler m'a sauvé la vie en ajoutant mon nom et celui de mes parents à la liste des travailleurs qui devaient être protégés de la déportation nazie », a-t-elle déclaré. Elle a survécu à Auschwitz et 50 ans plus tard, « Toi, Steven, tu as enregistré ma vie en me rendant ma voix ». Outre Steven Spielberg et Madame Binias, les participants ont entendu la présidente de l'USC, Carol Folt, et les dirigeants de la Shoah Foundation. Le programme s'est terminé par une conversation entre un étudiant athlète de l'USC et l'Holocauste et Shaul Ladany, survivant du massacre des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Le film Munich de Spielberg de 2005 parle de la réponse israélienne à ce massacre. Le prix rend hommage à ceux qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'USC, à la société et à l'humanité, a déclaré Folt dans son discours. Les 56 000 témoignages survivants de la Shoah constituent l'une des plus grandes contributions à l'humanité.
ויחזקם, ויבנו שיח ומגדלים בירושלים. ויחזקם, ויחזקם, ויבן מגדלים, ויבן מגדלים במדבר, ויחצו בורות רבים, ויחצו בורות רבים. ויבן מגדלים, ויבן מגדלים במדבר, ויחצו בורות רבים, ויחצו בורות רבים. ויחזקם, ויהם זיהו מגדלים בירושלים. ויחזקם, ויחזקם, ויבן מגדלים, ויבן מגדלים במדבר, ויחצור קרבים, ויחצור קרבים. ויבן מגדלים, ויבן מגדלים במדבר, ויחצור קרבים, ויחצור קרבים.
Yeah.
Et c'est donc en compagnie du merveilleux violoniste Yitzhak Perlman que se termine cette émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Dans quelques instants, rediffusion des informations. J'en profite pour souhaiter à nos amis chrétiens de très bonnes fêtes de Pâques. Shabbat Shalom à Guit Shabbes et à la semaine prochaine.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenance d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Judaïka.